cette nouvelle édition de l'économie en question, nous parlons ce matin une nouvelle fois des effets de la crise économique, celle que le monde anglophone nomme la grande récession, en référence bien sûr à la grande dépression de 1929 et dans laquelle sont entrés à partir de 2008 la plupart des pays industrialisés, États-Unis d'abord, puis pays européens, dont la zone euro bien sûr dans son ensemble. Une crise d'abord financière liée, on s'en souvient, à celle des subprimes, les fameux prêts bancaires excessifs qui ont entraîné des faillites massives. On connaît la suite, une déstabilisation durable de toute l'économie mondiale. Dès 2010, les premiers signes de sortie de récession sont apparus, mais pas pour tout le monde. La reprise se poursuit. Or, elle est lente, elle est fragile et les perspectives des grandes institutions financières restent prudentes, attentives. On vient encore de le voir cette semaine avec le FMI à la persistance de facteurs alarmants dans les pays émergents et dans les pays à faible revenu. Ce n'est plus en effet l'Europe qui est au centre des préoccupations, mais bien toute une série de pays exportateurs, pour la plupart directement affectés par la chute du cours des matières premières et disposant d'une marge de manœuvre bien étroite pour sortir de leurs difficultés. C'est d'eux que nous parlons aujourd'hui, c'est notre débat pays émergents, pays en développement, la crise au prix fort et comment en sortir. Et nous sommes en compagnie de Laurence Daziano, que je salue, qui vient nous voir pour la première fois, économiste, maître de conférences à Sciences Po, membre de Fondapol, une fondation pour l'innovation politique. Élise Huillerier, professeure à Sciences Po, chercheuse associée au Poverty Action Lab du MIT. C'est celui de Esther Duflo, je le cite, notre française Esther Duflo, le MIT aux États-Unis bien sûr. Et Dominique Plion, professeur d'économie financière à Paris. Paris 13, bien sûr, bienvenue à tous les trois, bienvenue à tous. C'est bien l'économie en question, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et en toute fin de séquence, en toute fin d'émission, notre séquence, venue avec un chiffre. Avec vous trois, donc, un examen de ces difficultés qui subsistent, qui persistent pour les pays émergents et pour les pays en développement. Évidemment, on va ici parler d'un très grand nombre de pays. Nous tâcherons d'en donner une vision assez correcte, même si elle est un peu rapide. Ce qui est important, bien sûr, le rôle important de la Chine dans le commerce mondial, les secousses qui se sont produites tout au long de son processus de développement, les répercussions qui pourraient être considérables, notamment dans nos pays, mais ici aussi dans les pays voisins et les autres pays émergents. C'est de tout cela que nous voulons parler avec cette recommandation, je trouve un peu étrange, du FMI dans cette toute dernière livraison d'avril qui revient un peu en arrière sur ses prévisions, qui nous dit qu'il est temps de réagir dans l'immédiat et le plus vite possible et que les pays, s'ils agissaient ensemble pour se préparer à ces effets, ferait revenir la confiance mondiale et elle pourrait même être, les effets positifs pourraient être considérables. On aimerait bien les croire et on aimerait bien les suivre. Ce n'est pas si facile. Laurence Daziano, je commence avec vous. Dans un ouvrage paru en 2014 et probablement écrit dans les mois d'avant, vous êtes encore relativement pessimiste, plutôt optimiste, sur l'émergence de ces nouvelles grandes puissances, les fameux BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et également sur les nouvelles qui s'imposent à leur tour, du Nigeria à l'Indonésie en passant par l'Éthiopie, le Vietnam. Êtes-vous tout évidemment, comme tout le monde, moins optimiste aujourd'hui ?
La situation a effectivement changé. Je pense qu'il faut quand même regarder les choses sur le long terme. Et sur le long terme, même si on va le voir, cette crise économique a encore des répercussions, elle a des répercussions différentes. Cette crise économique, comme vous l'avez souligné, qui est partie de 2008, aujourd'hui, elle a comme cause, vous l'avez mentionné, le ralentissement chinois. Vous avez la chute du cours des matières premières, notamment le pétrole, mais pas que le pétrole, il y a aussi le minerai de fer et puis les ressources nourriture. Vous avez aussi la politique monétaire américaine, je pense qu'on y reviendra aussi. Et les pays émergents sont différemment affectés. Et parmi les pays que vous avez cités, parmi les BRICS ou parmi les nouveaux émergents, il y en a qui résistent plutôt bien. Vous avez notamment l'Inde qui résiste plutôt bien parce que l'Inde est un importateur net de pétrole, donc elle profite de la chute des cours. Et puis vous avez un pays comme l'Éthiopie qui aussi est un pays importateur net de pétrole qui résiste bien. L'Éthiopie, c'est depuis 10 ans une croissance d'environ 10% par an, donc c'est quand même un des lions africains, méconnu mais un des lions africains.
Méconnu, hein, je voudrais insister là-dessus, c'est très intéressant ce qui se passe en Éthiopie, on en parle très peu, 100 millions d'habitants tout de même.
Tout à fait, on en parle peu.
Situation politique qui est restée stable pendant longtemps, qui est plus tendue ces derniers temps.
Elle reste quand même stable pour des investisseurs et c'est pour ça qu'il y a autant
de... à ses voisins, en tout cas, autant, de la Corne de l'Afrique.
Voilà, autant d'investissements. Et puis un autre pays qui est également résiste bien à la crise, hein, c'est le Vietnam. Le Vietnam, lui aussi, est importateur. Et le Vietnam qui a connu en 2015 un taux de croissance de 6,7%, qui est son meilleur taux de croissance depuis 5 ou 6 ans. Donc vous avez les pays, on va y revenir probablement, qui sont exportateurs de matières premières et qui eux souffrent beaucoup de la chute des cours et de la remontée du dollar. Mais vous avez d'autres pays qui résistent plutôt bien à cette crise.
Donc ça reste pour vous quand même une des premières causes, peut-être, cette question des exportations. Vietnam, où se rend Barack Obama, c'est une actualité demain, pour un peu rééquilibrer sans doute les forces dans la région face à la Chine. Dominique Plion, votre analyse et les causes principales, on voit celles que met en avant Laurence Daziano.
Vous parliez tout à l'heure de la grande récession, avant on parlait de la grande modération, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une période, au début des années 2000 en particulier, avant la crise, où il y avait un sorte de cercle vertueux, où il y avait les pays avancés, à commencer par les États-Unis, avaient une croissance de leur consommation, souvent d'ailleurs à crédit, qui tirait la croissance des pays émergents, dont la Chine en particulier, mais pas que, les pays d'Amérique latine aussi, tout ça dans un contexte de boom sur les matières premières, et donc tout ça faisait que l'économie mondiale se développait à un rythme rapide, trop rapide d'ailleurs, on le voit maintenant, c'était insoutenable. Et donc ce système s'est retourné, c'est-à-dire que l'effondrement, qui à mon avis est durable, en tout cas le ralentissement durable de la croissance des pays dits avancés, percute évidemment les pays exportateurs, à commencer par des pays comme la Chine, se traduit par une baisse des matières premières, et met les pays exportateurs de matières premières en grande difficulté. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des facteurs à la fois internationaux comme la baisse des matières premières, mais aussi ce qui se passe sur les taux de change, dont on parlera peut-être tout à l'heure, hein, et notamment l'impact de la politique monétaire des pays avancés, à commencer par les États-Unis, sur les pays émergents. Mais il y a aussi des erreurs de politique économique très importantes. Juste, vous parliez des matières premières, il y a une sorte de malédiction des matières premières qu'on peut mettre en avant. C'est-à-dire les pays qui ont la chance, à un moment donné, de profiter d'un boom des matières premières, commettent l'erreur de ne pas en profiter pour s'industrialiser. Et là, je mettrais le projecteur, par exemple, sur un pays comme le Brésil, qui vit une situation absolument catastrophique, à la fois une crise économique et politique, mais qui s'explique en partie par le fait que ce pays s'est désindustrialisé littéralement du fait qu'il est exportateur de matières premières agricoles et de pétrole, et qu'aujourd'hui il a été extraordinairement fragilisé. La principale faute de Dilma Rousseff, en particulier, qui est aujourd'hui donc n'est plus présidente puisqu'elle a été empêchée, c'est précisément de ne pas avoir su, alors qu'on disait qu'elle était d'ailleurs économiste, hein, qu'elle n'a pas vu que c'était le moment, pendant le boom des matières premières, de consolider la structure productive du Brésil. Et aujourd'hui, le pétrole contribue plus à la croissance du Brésil, ou en tout cas ces dernières années, que l'industrie. Ce qui est évidemment assez catastrophique.
Oui, on pourrait peut-être en dire autant, alors c'est tout à fait dans un autre lieu de notre planète, du Nigeria, un pays très très exportateur aussi, qui assure l'essentiel de ses revenus de l'exportation du Niger, du pétrole. Une croissance très forte aussi, et qui, d'un seul coup, est en train de chuter, rongée en plus par de... pas mal d'années de corruption, il faut l'ajouter, Laurence Daziano, puis les Ulrich.
Oui, sur le Brésil, hein, je pense qu'on y reviendra parce que c'est un sujet en lui-même. Sur le Nigeria, la croissance au Nigeria est encore assez forte. Enfin, pour nous, occidentaux, elle nous paraît assez forte. Elle est encore à 5%.
Bien sûr, on peut dire de la plupart de ces pays, d'ailleurs.
Voilà, mais pour un pays comme le Nigeria, qui a une population qui est de 170-175 millions d'habitants, ça n'est pas assez pour tirer l'économie, effectivement.
Oui, et surtout, il a chuté très, très brutalement, selon les termes de Dominique Plion, pour les mêmes raisons. Élise Huillery, changeons là encore, continuons à nous promener d'une région à l'autre et allons vers l'Afrique de l'Ouest. Et là, on parle des pays à faible revenu, des pays en développement, qui n'ont pas été très directement impactés par cette crise de 2008. Et on peut comprendre pourquoi ils n'étaient pas dans le grand mouvement de développement et de croissance, mais qui tout de même en subissent les effets.
Oui, ces pays sont très quand même dépendants des financements extérieurs et très dépendants de leurs exploitations de matières premières. Les moins avancés ont finalement non seulement pas tellement souffert de la crise de 2008, mais même plutôt La crise a finalement créé des conditions relativement favorables pour eux et ça explique en partie les très grands taux de croissance de l'ordre de 5 et plus pour cent dans la plupart de ces pays. Parce que d'une part, la crise de 2008 a octroyé à ces pays des conditions d'accès à des financements internationaux relativement peu chers. Et la deuxième raison, c'est que les afflux de capitaux ont été un petit peu majorés du fait que ces pays étaient un peu plus attractifs relativement à ceux qui subissaient de plein fouet la crise, c'est-à-dire les pays les plus avancés. Donc finalement, l'investissement privé a été très important, très dynamique suite à la crise de 2008 dans ces pays-là, dans les pays les moins avancés, qui apparaissaient comme finalement un marché potentiel soudainement très attractif pour les capitaux. Et puis la troisième raison, c'est effectivement cette demande élevée de matières premières qui est restée très très forte, notamment grâce à la Chine et qui du coup a permis à ces pays de se maintenir très très bien sur le plan des exportations de matières premières, des minerais, pas seulement du pétrole mais aussi des minerais ou de matières premières.
Et excusez-moi de vous interrompre. Rappelons qu'au début de la crise, les prix étaient très élevés. C'est ensuite que la chute est intervenue.
La chute est très récente en fait.
2008, prix étaient au contraire très élevés, ce qui a pu effectivement profiter.
Et les cours ont continué à être très très bons, très très élevés.
C'est ça.
Et c'est seulement récemment, fin 2014, qu'effectivement on a une vraie baisse. Mais ces pays-là, les pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, les moins avancés, sont pas exportateurs de pétrole, plutôt importateurs de pétrole. Donc en fait, ils bénéficient eux de la baisse des cours du pétrole au lieu d'en pâtir comme le Nigeria ou les pays comme le Cameroun, etc., qui sont des grands, ou l'Angola, qui sont des grands exportateurs de pétrole. Donc paradoxalement, c'est très important d'avoir en tête, c'est que la crise de 2008 a été relativement favorable aux pays les moins avancés. Et c'est maintenant qu'il y a une reprise dans les pays riches que finalement on risque de voir un rebond, plutôt un effet négatif sur les pays les moins avancés, parce que il y a un renchérissement de l'évaluation du risque de ces pays qui fait que les taux d'emprunt s'apprécient. Et puis il y a aussi un départ possible des actifs financiers, des capitaux privés qui vont revenir finalement à leur terre d'origine, c'est-à-dire les pays riches. Donc il y a un risque de départ des capitaux privés qui pourrait maintenant en fait pâtir à ces économies.
On va parler aussi de la Russie dans un instant. Alors, Dominique Pillon, j'aimerais qu'on revienne.
Oui, prolonger ce que disait Élise Villery, parce que je suis d'accord, il faut insister sur la dimension financière en particulier.
Voilà.
Il y a une fragilité financière qui caractérise un certain nombre de ces pays. On peut parler par exemple de cas qui sont assez différents, mais qui ont des points communs, c'est le Brésil et la Chine. Ce sont des pays qui aujourd'hui souffrent, outre les problèmes qu'ils ont du côté de leur balance extérieure ou bien du côté de leur appareil productif, ont un système financier qui est aujourd'hui extraordinairement fragilisé. Alors, d'abord, par une montée extraordinaire de l'endettement. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu un rapport, d'ailleurs, que je recommande à nos auditeurs, par le bureau d'études McKinsey l'année dernière, en 2015, sur l'endettement dans le monde. Et ils ont montré, ce rapport montre que depuis le début de la crise, tous les pays de la planète, enfin tous les grands pays de la planète, ont vu leur endettement public et privé augmenter très très rapidement, et que les pays en développement et émergents contribuent pour plus de la moitié de cette montée extraordinairement rapide de l'endettement. Et si on prend par exemple la Chine, aujourd'hui ce qui peut rendre inquiet par rapport à la question chinoise, c'est moins ses difficultés productives que ses difficultés financières, puisqu'il y a une part très très importante de la dette qui est près de 300% du PIB, toute dette confondue en Chine, qui est dans le shadow banking, c'est-à-dire dans une partie de l'économie non régulée. Et ce qui est un paradoxe pour un pays comme la Chine, qui se veut être un pays avec un État fortement régulateur, eh bien, ils ont laissé se développer ce genre de dette. Et aujourd'hui, c'est une sorte de bombe à retardement, un peu comme le shadow banking a été au cœur de la tête de la crise des subprimes. On peut craindre qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr que ça se produira, mais que ce shadow banking qui existe aussi dans des pays comme le Brésil, mais en Chine, c'est encore plus important, soit demain un élément d'inquiétude et de déstabilisation de ces grandes économies, avec des effets en retour sur nos économies dites avancées.
Politique monétaire aussi, hein, vous l'avez mentionné tous les deux, Dominique oui. Pillon, Laurence Tassiano, la Chine notamment, le yuan qui poursuit sa chute, ça c'est un élément important dans tout ce qui est en train de se passer.
Alors que comme le dit Dominique, c'est la situation de la Chine, elle est vraiment très importante sur l'équilibre mondial parce que il y a d'une part, ce dont tu viens de parler, ce shadow banking et le fait que les banques chinoises préfèrent prêter à des entreprises qui sont public, mais qui ne produisent plus ou qui ne produisent pas, qui produisent mais des choses qui ne sont pas utiles et à des surcoûts sans productivité, alors que l'économie réelle chinoise, et c'est elle, cette économie réelle de l'entreprise privée qui tire l'économie chinoise, n'arrive pas à se financer auprès des banques et va donc vers ce shadow banking. Donc on en arrive à ce paradoxe où c'est l'économie privée qui tire l'économie chinoise qui est la plus fragilisée par ce système. Quant au yuan, oui, on voit ces fluctuations qui sont parfois tellement importantes qu'elles font peur. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez la volonté politique du gouvernement.
C'est son niveau le plus bas face au dollar actuellement, je crois.
Voilà, mais vous avez cette volonté du gouvernement chinois de faire du yuan une monnaie internationale, d'où le fait que le fait qu'ils sont entrés dans les droits de tirage spéciaux du FMI, c'est vraiment très important pour la Chine. Et le gouvernement chinois a besoin de cette reconnaissance internationale et est prêt à payer très cher, même si c'est le yuan.
Quitte à prendre des risques sérieux.
Sérieux vis-à-vis du dollar.
Et ça vous paraît une politique raisonnable, si je peux vous demander votre avis, vous qui l'observez depuis longtemps?
Là, être raisonnable, c'est être dans la mesure. Là, les risques sont vraiment importants.
Oui, moi, je pense qu'ils prennent des risques, je suis d'accord, vraiment excessifs par rapport à l'enjeu, surtout que l'internationalisation d'une monnaie a des coûts considérables en termes d'instabilité, de pression sur le pays. Donc, en termes de prestige, c'est évidemment très bien, mais en termes d'instabilité, ce n'est pas forcément l'idéal pour l'économie en question.
La Russie, enfin, dont nous n'avons pas encore parlé, pays évidemment d'une importance très, très stratégique. Là aussi, la situation s'est aggravée, un recul assez sévère du produit intérieur brut de près de 4% en 2015, 3,5 je crois. Des raisons qui sont d'abord la poursuite des sanctions économiques, on peut y revenir, on se souvient que c'était lancé en 2014 par les Occidentaux suite à l'ingérence de la Russie dans le dossier ukrainien, la chute des matières premières, là encore, et donc pour revenir à la situation maintenant intérieure de la Russie, là aussi il semble que le président Poutine a pris un certain nombre de risques en coupant largement dans son budget, Laurence Dassiano encore, puis peut-être... Élise ou Dominique Plion.
Alors sur la Russie, il y a eu une mauvaise conjonction effectivement pour la Russie. Vous avez eu à la fois la chute des prix du pétrole à l'été 2014, qui était due à une surproduction mondiale, à une offre très supérieure à la demande, dont tous les professionnels étaient conscients, ça se voyait dans les statistiques, ça se voyait sur les marchés, il y avait beaucoup trop de pétrole offert, il n'y avait plus assez de demandes. La Russie a sa part de responsabilité aussi, puisque la Russie n'a jamais autant produit de pétrole qu'actuellement, elle fait plus de 10 millions de barils jour. Donc vous avez à la fois la chute des prix du pétrole qui arrive à l'été 2014, parce que l'Arabie Saoudite dit qu'elle n'ajustera pas sa production pour faire monter les prix, donc les prix baissent, et dans le même temps, vous avez juin 2014.
Autour de $30 le baril, là,
voilà,
je rappelle.
Voilà, il est tombé jusqu'à $30. Il remonte aujourd'hui. On n'a pas encore passé la barre fatidique ou symbolique
aujourd'hui,
des 50. Mais aujourd'hui,
ces
jours-ci, hier soir, j'ai regardé les cours hier soir, ils étaient à pratiquement $48-49 le baril. Et depuis le début de la semaine, il tangente les 50, mais il n'est pas encore au seuil. Mmh. Et donc la Russie a joué de malchance dans le timing, parce qu'il y a à la fois cette chute du cours du pétrole qui arrive à l'été 2014, et vous avez juin 2014, les premières sanctions qui arrivent, et qui coupe la Russie d'une partie de son économie. En même temps, j'ai envie de dire, comme on disait tout à l'heure, que le problème, c'était que la maladie hollandaise dont on parlait, quand on exporte...
La malédiction des matières premières.
Voilà, ouais. quand on produit beaucoup de pétrole, du coup, on se désindustrialise. Le fait qu'il y ait eu les sanctions, bizarrement, ça pousse la Russie à diversifier son économie. Mais évidemment, c'est beaucoup plus difficile de diversifier son économie en temps de crise que quand on en a les moyens en temps de de vaches grasses.
Bien sûr. Il est vrai que depuis longtemps, les autorités russes disent qu'elles veulent réformer leur économie, la rendre moins dépendante de l'évolution du marché pétrolier. On n'en a pas encore d'effet très, très significatif. Élise Huillery, pour
ce... Non, c'est très intéressant parce que ça me rappelle vraiment la situation. Enfin, ça fait écho complètement à la situation des pays d'Afrique où la très forte dépendance extérieure est gérée de façon très différente selon les pays. Il y a des pays qui ont profité là, des bonnes années 2005-2014 pour investir. Bah, par exemple, le Sénégal, le Kenya ou alors des pays qui ont investi dans des énergies, la production d'énergie hydraulique, géothermique, etc., comme l'Éthiopie. Ces pays-là ont profité des bonnes années pour vraiment investir dans leur... production énergétique, parce qu'en fait, la production énergétique et les infrastructures sont vraiment la clé pour ensuite développer des industries et diversifier leurs exportations. Tant qu'on a des coupures d'électricité tous les jours, on peut pas accueillir une industrie. Donc, ils ont profité, et là, on a des vraies avancées au niveau des infrastructures, notamment énergétiques et transports dans ces pays africains. Et ceux qui l'ont pas fait, qui l'ont peu fait, effectivement, là, maintenant, se retrouvent à décrocher plus que les autres en termes de croissance depuis qu'il y a ce retournement de la demande chinoise qui baisse et ce retournement du cours des matières premières et du pétrole. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que certains se sont saisis des bonnes années de croissance pour investir et d'autres ne l'ont pas fait et les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui dans la récession.
Oui, elles apparaissent très, très clairement. La dépendance de certaines économies ouest-africaines, hein, de ces secteurs d'exportation est très, très forte. Je voudrais en citer quelques-unes. Le coton, 45% des recettes commerciales du Bénin, hein, c'est cela. Côte d'Ivoire, la filière du cacao qui fait vivre directement ou indirectement un tiers de la population. Le Ghana, exportation minière pour 50% des recettes d'exportation. C'est assez dire l'importance, évidemment, et l'effet, et l'effet désastreux lorsque ces exportations sont brutalement ralenties. Encore quelques remarques sur l'Amérique latine dont nous avons peu parlé. On a parlé bien sûr du Brésil, le Venezuela, cas tout à fait préoccupant aujourd'hui, où il est même question
Le Venezuela, comme le Brésil, alimentaire, connaît une crise. Lyon. Économique qui se traduit aussi par une crise politique majeure, c'est-à-dire le pays est au bord, grand pays exportateur et producteur de pétrole, qui n'a pas su investir pendant la période de vaches grasses, si je puis dire, pour développer un appareil productif et avoir des alternatives, c'est-à-dire avoir une diversification de sa production et de ses exportations. Et aujourd'hui, ce pays est au bord de l'implosion politique.
En prenant quand même des mesures sociales, je voudrais revenir un peu sur le contexte social dans tous ces pays.
La comparaison avec le Brésil, pour ça, est intéressante, parce que le président Chavez, puis Maduro, ont tous les deux mené une politique sociale très avancée, mais cette politique sociale n'est pas, hélas, suffisante, c'est-à-dire qu'il faut aussi mener une politique d'investissement productif. Et au Brésil, Lula a aussi fait une politique sociale remarquable de lutte contre la pauvreté, mais il n'a pas su, et surtout Dilma Rousseff n'a pas su coupler cette politique avec un appareil productif. On ne peut pas faire du social si on n'a pas un appareil productif robuste. Et je crois qu'aujourd'hui, ces deux pays sont fragilisés politiquement, hein, pas uniquement économiquement, mais politiquement à cause de ces erreurs de politique économique, oui, en tout cas ces insuffisances de politique économique.
En dépit des efforts qu'ils ont faits contre la pauvreté.
Sur le plan social, bien entendu, qui est tout à fait louable, évidemment, et tout à fait important.
Et qui n'a pas suffi à réduire les inégalités, non. C'est encore un autre sujet. Élise Huillery, l'Afrique.
Oui, c'est le même sujet, peut-être même encore plus fort pour l'Afrique, où effectivement, il y a un manque de recettes fiscales, de recettes des impôts. Il y a un manque de collecte des impôts qui rend très dépendant ces pays-là des financements extérieurs et du commerce et qui empêche d'avoir des investissements réels sur les investissements comme la santé et comme l'éducation qui sont quand même de manière assez unanime la clé de la réduction des inégalités, de la sortie de la pauvreté dans ces pays qui va permettre de créer une demande intérieure et qui va permettre de réduire cette dépendance par rapport à ces flux de capitaux, ce coût de financement extérieur. Enfin là, on est dans des économies qui restent aujourd'hui extrêmement dépendante de l'extérieur parce qu'il y a ce manque de collecte des impôts localement. Donc c'est vraiment la priorité absolue en Afrique subsaharienne en tout cas, de développer à la fois la technologie de collecte des impôts et puis le civisme fiscal, c'est-à-dire le consentement des populations à le payer.
Et peut-être moins de rente dévolue à certaines classes de la population,
exactement.
Ce qu'on voit encore énormément en Afrique,
exactement.
Bien entendu. On ne parle pas ici des contextes politiques, c'est moins notre affaire, mais il est partout.
Oui, je voudrais revenir les pays dont nous parlons, Laurence Daziano.
Je voudrais revenir sur ce que disait Dominique sur le Brésil. Effectivement, la politique sociale du président Lula a permis de sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté.
Il faut le rappeler.
C'était la fameuse Bolsa Familia. Ça a créé cette classe moyenne émergente qui aujourd'hui au Brésil est très revendicative et qui, du fait de la crise, une frange de la population qui était sortie de la pauvreté, qui était entrée dans la classe moyenne, est en train de redescendre dans la pauvreté. Donc c'est ça aussi qui fait le chaudron social que l'on connaît aujourd'hui au Brésil. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs de Dilma Rousseff en matière économique. C'est vrai aussi que le Brésil à une politique industrielle, les entreprises ont du mal à se développer parce que vous avez une politique fiscale qui est très compliquée, vous avez un droit du travail qui est également très compliqué et qui empêche, qui sclérose l'économie. Et le fait d'avoir appuyé l'économie sur plus le pétrole et d'avoir laissé de côté cette nécessité de moderniser le social et de moderniser les entreprises pour développer cette partie-là, c'est effectivement une des choses que l'on peut reprocher en politique économique à Dilma Rousseff, au-delà des scandales et autres, parce que c'est moins le sujet. Mais c'est vrai qu'économiquement, elle a fait des erreurs qu'elle a payées.
Pour rester sur le Brésil, une des erreurs aussi, c'est la politique monétaire du Brésil qui s'est traduite par des taux d'intérêt extraordinairement élevés. Alors quand ça allait bien, quand les taux étaient presque zéro aux États-Unis, par exemple, ça faisait des entrées de capitaux d'ailleurs de nature souvent spéculative, qui aujourd'hui repartent avec l'inversion de la politique monétaire, hein, puisque aux États-Unis il est question maintenant de remonter progressivement les taux d'intérêt, et donc ça déstabilise complètement le pays. Ces taux d'intérêt réels élevés a été un frein à l'investissement productif. Donc il y a une politique monétaire aussi qui a sa part de responsabilité, et Lula, le président Lula comme Dilma Rousseff, ont fait l'erreur de nommer ou de contribuer à nommer des dirigeants à la Banque centrale qui étaient extrêmement orthodoxes, trop orthodoxes pour accompagner leur politique. Ils auraient dû avoir une politique un peu plus souple et avec des taux d'intérêt un peu plus bas. Parce que là, il y avait une contradiction interne, en quelque sorte, dans cette politique.
Eh bien, merci à tous les trois pour ces éclairages. Nous sommes allés d'un pays à l'autre et nous avons bien traversé des continents. Mais il me semble que vous avez bien montré les points communs entre tout ceci, optimiste ou très pessimiste, d'un mot, Laurence Daziano, pour les années à venir. Ou peut-être pour une autre question, quel pays mettez-vous en avant qui pourrait s'en sortir le mieux
Je vais rester optimiste et en avant, je mettrai le Vietnam.
Le Vietnam a surveillé, donc, Élise Huillery en Afrique.
Alors, optimiste, ça c'est sûr, parce qu'effectivement, là, on est en train d'avoir l'air.
Forte, hein,
en train d'avoir l'air assez pessimiste. En fait, on reste à des taux de croissance en moyenne de 3,5-4%, en moyenne, avec des pays qui sont bien au-delà. Et les pays qui font vraiment très bien aujourd'hui, c'est par exemple l'Éthiopie.
Merci beaucoup. Ma dernière question pour vous trois. Je vous avais demandé de venir avec un chiffre. Et bien, qui veut commencer? Laurence Daziano, votre chiffre.
Un chiffre qui va vous donner le vertige, c'est 3000 milliards de dollars. C'est une des estimations de la valeur de l'entreprise pétrolière saoudienne Aramco, dont une partie devrait être bientôt ouverte au public, au capital.
Somme absolument inimaginable même. Dominique Plion, votre chiffre.
Alors, mon chiffre, c'est 1122. Qu'est-ce que veut dire ce chiffre? En fait, le salaire de Carlos Ghosn, qui est de 15 millions par an, représente 1122 années de SMIC.
1122 années de SMIC.
Et cette année, pour ça que c'est d'actualité, il y a eu une tribune dans Libération de 40 économistes qui se sont exprimés pour demander que le gouvernement légifère sur cette question de la rémunération des patrons et que ça soit limité, ce qui est encore trop, mais ce qui sera un progrès, à 100 années de SMIC seulement, d'un rapport de 1 à 100 entre le salaire des patrons et du CAC 40 et le SMIC. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société qui est hallucinant d'ailleurs, hein, et assez scandaleux et injustifiable sur le plan économique. Ces écarts ne trouvent aucune justification.
On reconnaît bien Dominique Plion, membre d'Attaque, je le dis au passage.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec moi. Ce n'a rien d'extrémiste de dire cela.
J'en suis bien d'accord. Élise Huillery, votre chiffre.
Mon chiffre est très simple, 50%. 50%, c'est le nombre de personnes en Afrique subsaharienne qui vivent en dessous du seuil de pauvreté de 1,25$ par jour. J'ai trouvé nécessaire de le dire parce qu'on parle de taux de croissance qui sont très élevés. Pour autant, ça ne diminue que très peu la pauvreté parce que ça bénéficie très peu aux populations, à la masse de la population très très pauvre. Donc je pense qu'il fallait que J'ajoute ce petit point.
Le mettre en relation, c'est évidemment indispensable. Merci à tous les trois. Élise Ulrich, l'on vient d'entendre. Laurence Daziano, dont je rappelle un ouvrage très, très pédagogique, d'ailleurs à l'intention aussi des étudiants. Vous êtes toutes les deux professeurs à Sciences Po d'ailleurs. Les pays émergents, approche géoéconomique, c'est paru donc en 2014 chez Armand Collin, Dominique Pillon, dont on pourra aussi retrouver tous les travaux sur notre site. Venez aussi nous retrouver sur Twitter avec tous les commentaires que vous souhaitez pour participer à ce débat. Un grand merci à notre petite équipe, Laurence Genepin pour la préparation et justement la documentation et la façon dont elle nourrit le site de l'économie en question, et Ghislaine David qui réalise l'émission aujourd'hui en compagnie d'Anthony Thomasson. Samedi prochain, je vous donne rendez-vous comme d'habitude à 12h. Nous aurons un débat autour d'un économiste américain, James Galbraith. Le nom doit vous dire quelque chose, il est le fils de l'autre. Et nous aurons un débat autour de la Grèce. Il vient de faire paraître un ouvrage, il l'intitule « Une tragédie européenne ». Nous aurons évidemment d'autres invités avec lui. À samedi prochain, donc, à suivre le journal avec Anne Fugambert.